Vous écoutez On lit pour vous.
Droits et handicap, de l'intégration à l'inclusion. Un texte de la rédaction paru le 16 mai 2025 sur UQAM.ca. L'UQAM célèbre les 50 ans de la Charte des droits et libertés de la personne et 40 ans de soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap. Le 13 mai dernier, un événement tenu à l'UQAM sous le thème « Droits et handicap 50-40 » a célébré les 50 ans de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et 40 ans de pratiques ucamiennes en soutien aux droits des personnes étudiantes en situation de handicap. La rencontre était organisée par les services à la réussite et à la vie étudiante en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les médias, les handicaps et les autoreprésentations, dont le titulaire est le professeur de l'École des médias, Mouloud Boukala. Au cours de la journée, les discussions ont porté notamment sur le parcours qui a conduit vers l'inclusion à l'UQAM des personnes étudiantes en situation de handicap. Les représentations et perceptions du handicap et les droits associés, les expériences des femmes en situation de handicap et les enjeux intersectionnels, handicap, parentalité et diversité, le déploiement d'accommodements raisonnables et l'évolution des modèles d'intégration et d'inclusion ont également fait l'objet d'échanges. L'événement a rassemblé plusieurs personnes de la communauté ucamienne, dont la vice-rectrice à la vie académique Joanne Grenier, des membres du corps professoral, des étudiantes et étudiants, le directeur des services à la réussite et à la vie étudiante, SRVE, Jasmin Roy, la coprésidente du chantier EDI, Agir pour l'équité et l'inclusion des femmes et des personnes LGBTQ2, Sophie Dansereau, ainsi que des conseillères et conseillers en soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante, BIRÉ. Philippe-André Tessier et Myrlande Pierre, MA Sociologie 2001, président et vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, et Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ, ont également participé aux discussions. À l'ouverture de la journée, Sylvain Lemay, MA Communication 2005, conseiller en soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap, BIRÉ, a rappelé que le handicap ne repose pas sur la personne, mais sur des facteurs extérieurs à celle-ci. Citation : Ces facteurs peuvent être culturels, environnementaux ou encore en lien avec nos attitudes, a-t-il déclaré. Notre attitude en matière de handicap consiste à se poser la question : est-ce que je fais partie de la solution ou de la problématique à l'inclusion de cette réalité ? Fin de citation. La vice-rectrice Joanne Grenier a souligné que le chemin parcouru à l'UQAM pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap s'est concrétisé par une augmentation significative des demandes au fil des années, une meilleure compréhension des besoins et une reconnaissance croissante de ces réalités, désormais moins stigmatisées. Les pratiques inclusives ont également été déployées à toutes les étapes du parcours scolaire, facilitant ainsi l'intégration à l'université. Citation : Lorsque j'étais professeur à la Faculté des sciences, j'ai eu le privilège d'enseigner à quelques personnes étudiantes auxquelles j'ai offert des aménagements. Un étudiant m'a déjà confié qu'il n'aurait jamais envisagé un parcours universitaire sans ces mesures d'accommodement. Elles avaient été pour lui de véritables rampes d'accès au savoir. Fin de citation, a indiqué la vice-rectrice à propos d'un ancien étudiant devenu aujourd'hui professeur d'université. Des services en évolution. En 1985, la reconnaissance à l'UQAM des droits des personnes étudiantes en situation de handicap s'est traduite par la création d'un service d'accueil, d'intégration et de soutien, ainsi que par le déploiement d'actions concrètes prenant alors la forme d'aménagements pour des limitations physiques, comme des rampes d'accès ou des services d'interprétation. Deux ans plus tard, en 1987, l'université adopte la politique institutionnelle d'accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap, politique numéro 44, qui a été bonifiée au fil des ans. Par cette politique, l'UQAM fait appel à la responsabilité personnelle et collective de l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Chaque membre et unité organisationnelle doit intégrer dans ses tâches et ses fonctions des préoccupations et des responsabilités quant au fait d'assurer l'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'ensemble des ressources et des activités de la communauté universitaire. Citation : Notre compréhension s'est élargie pour inclure les handicaps invisibles et la neurodiversité. Fin de citation, a observé Joanne Grenier. À partir de ce moment, les demandes de soutien ont connu une croissance importante. Citation : Ce changement témoigne non pas simplement d'une augmentation des diagnostics, mais surtout d'une meilleure compréhension des besoins et d'une reconnaissance grandissante de ces réalités. Fin de citation, a souligné la vice-rectrice. En 2021, l'UQAM a mis sur pied le BIRÉ. Rattaché au service à la réussite et à la vie étudiante, le bureau offre, entre autres, un soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap qui éprouvent de la difficulté à accomplir leurs tâches courantes du fait d'une déficience ou d'une limitation entraînant une incapacité significative et persistante. Les déficiences peuvent être visuelles, auditives ou motrices, tandis que les limitations peuvent découler de conditions neurodéveloppementales, de troubles d'apprentissage, de troubles de santé mentale ou de maladies organiques. Il y a 20 ans, 112 personnes étudiantes étaient inscrites au service de l'accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap, contre près de 4000 inscrites au BIRÉ en 2023-2024. Il y a 20 ans, les personnes étudiantes avec un handicap non visible représentaient 7 % des personnes inscrites au service de l'accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap, alors que leur pourcentage s'élevait à 89 % en 2023-2024. La charte a 50 ans. Le 27 juin prochain, il y aura 50 ans que l'Assemblée nationale du Québec adoptait la Charte des droits et libertés de la personne. Depuis, la charte a accompagné les grandes avancées sociales du Québec et continue d'évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux de société. Le 50e anniversaire de la charte est l'occasion de souligner son rôle fondamental pour la protection des droits et libertés, notamment pour les personnes en situation de handicap, tout en ouvrant la réflexion sur son avenir. En 1978, le handicap a été ajouté aux motifs interdits de discrimination prévus à la Charte, la même année où fut adoptée la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées. Depuis, le handicap représente le motif du plus grand nombre de plaintes de discrimination déposées à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et ce, dans pratiquement tous les domaines ayant un impact sur la vie des personnes en situation de handicap. Dans la dernière année, 39 % des plaintes traitées par la Commission concernaient le handicap. Citation : S'il est possible aujourd'hui de constater que nos institutions ont progressivement fait place aux personnes en situation de handicap, il faut cependant admettre qu'elles n'ont pas toujours été en mesure de le faire au rythme de l'évolution conjuguée du contexte social et des avancées du droit, qui prescrivait une société toujours plus humaine, plus juste et plus démocratique, a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission. Ainsi, l'atteinte de l'égalité réelle demeure encore aujourd'hui un combat de tous les instants pour la vaste majorité des personnes en situation de handicap. Fin de citation. Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, a rappelé qu'en 2022, 21 % des Québécoises et Québécois de 15 ans ou plus vivant en ménage privé avaient une incapacité, une proportion représentant un peu plus de 1 400 000 personnes. Citation : Tous les jours, ces personnes sont susceptibles de rencontrer des obstacles dans leur vie, dans les services de santé, en emploi, dans les transports, dans les loisirs. Et bien sûr, les milieux d'enseignement n'y font pas exception. Fin de citation, a souligné Daniel Jean. C'était « Droits et handicap, de l'intégration à l'inclusion », un texte de la rédaction paru le 16 mai 2025 sur uqam.ca.
Un laboratoire vivant pour bonifier les services en santé mentale. Un texte de Jeanne Trépanier, paru le 15 mai 2025 sur radiocanada.ca. Univers Chaque. C'est le projet novateur de logement visant à révolutionner des services en santé mentale qui voient le jour à Lennoxville. L'objectif des deux universités sherbrookoises qui prennent part au projet? Faire de l'univers Chac un véritable laboratoire vivant pour les chercheurs, et ce, dans les 40 appartements de cette ressource. C'est quoi Univers Chac? Univers Chac est un laboratoire vivant qui offre un toit à des jeunes de 18 à 35 ans atteints de déficience intellectuelle. C'est là-bas que se tiendra le projet de recherche. En collaboration avec l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishops, l'organisme sherbrookois Mon Chac, mes choix, mon avenir cherche à approfondir les recherches sur leur initiative pour l'exporter à l'extérieur de l'Estrie. Les services d'intervention professionnelle offerts aux résidents seront scrutés par des chercheurs. Ces derniers analyseront, entre autres, les rencontres entre les résidents dans l'optique de comprendre leurs bienfaits et de les améliorer. Des impacts concrets. Carl Tremblay est l'un des résidents de cet organisme. Il y a posé ses valises en 2022 après avoir suivi une thérapie. Moi, je suis très fier de Carl qui, au départ, avait été refusé à Mon Chac parce qu'il consommait trop encore. Il a accepté d'aller en thérapie. Il n'avait jamais fini une thérapie dans sa vie, souligne la fondatrice et directrice générale de Mon Chac, José Parent. Je n'ai jamais vu une ressource comme celle de José. Une citation de Carl Tremblay, locataire. Ce dernier soutient que la grande famille qu'a créée Mon Chac se tient les coudes. Ce sont des histoires comme celle de Carl qui ont aidé José Parent à convaincre les universités de Sherbrooke et Bishops de faire de Mon Chac ce laboratoire vivant. Le partenariat pourrait générer de nouvelles pistes de solutions pour les personnes vivant avec des problématiques de santé mentale. José tenait à ce que ce projet se déroule dans son organisme, que les progrès qui ont été accomplis soient analysés. « Il faut le documenter », indique-t-elle. Comment ça se fait qu'à Mon Chac, on a des jeunes qui étaient hospitalisés 2, 3 ou 4 fois par année et qui ne sont plus hospitalisés? Comment ça se fait qu'on a des jeunes qui avaient un pronostic très négatif et qui maintenant sont aux études? J'en ai un à l'université, j'en ai au cégep. J'étais vraiment excité par l'idée de pouvoir intégrer nos étudiants dans un environnement d'apprentissage réel, soutient le coordonnateur de l'apprentissage expérientiel à l'Université Bishops, Bassam Chiblack. François Lausier-Jobin est professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il explique qu'on s'aperçoit au Canada que les jeunes sont le groupe d'âge qui ont la moins bonne santé mentale et les milieux d'hébergement peuvent vraiment être des vecteurs pour favoriser leur rétablissement. Rappelons que José Parent a fondé cet organisme en 2013. Il lui aura fallu 5 ans pour accueillir ses premiers locataires dans les logements sociaux. En 2018, 18 de ces logements avaient vu le jour. Un nombre qui a augmenté à 22 en 2023. Aujourd'hui, 40 appartements sont occupés. Rappelons que la ville de Sherbrooke avait fait don du terrain pour permettre la construction de l'hébergement. C'était un laboratoire vivant pour bonifier les services en santé mentale, un texte de Jeanne Trépanier, paru le 15 mai 2025 sur radiocanada.ca.
L'Ontario augmente le budget pour l'autisme, mais les défenseurs restent sur leur faim. Un texte de la presse canadienne paru le 17 mai 2025 sur radiocanada.ca. Le budget ontarien déposé jeudi prévoit une hausse du financement du Programme ontarien des services en matière d'autisme, POSA, sans toutefois préciser comment ces fonds seront déployés. L'absence de détails inquiète la Coalition ontarienne pour l'autisme, qui redoute que l'argent ne bénéficie pas directement aux thérapies destinées aux enfants. Nous accueillons toujours favorablement toute augmentation du budget. C'est nécessaire, affirme Alina Cameron, présidente de la Coalition. Mais comme présenté, cela soulève plus de questions que de réponses. L'an dernier, le budget du programme s'élevait à environ 720 millions de dollars. Or, selon Mme Cameron, les augmentations précédentes d'environ 60 millions n'ont pas permis de réduire de manière significative la liste d'attente. Dans l'exercice financier présenté jeudi par le ministre des Finances Peter Bethlen-Falvey, le budget du POSA passe à 779 millions de dollars. Selon des chiffres obtenus par la coalition grâce à une demande d'accès à l'information, près de 80 000 enfants et jeunes étaient inscrits au programme en février dernier, mais seulement environ 17 650 avaient un accord actif pour recevoir des fonds liés aux services cliniques de base. Le taux d'inscription est nettement plus élevé que le taux d'accès aux services cliniques essentiels, souligne Mme Cameron. On ne constate pas vraiment de changement au niveau des services pour les familles, malgré ces hausses annuelles. L'argent semble souvent se perdre dans les coûts administratifs plutôt que d'atteindre directement les familles. En chambre, le ministre Parsa a récemment mentionné que plus de 45 000 familles reçoivent divers services et soutiens. Le POSA offre aussi des programmes d'entrée à l'école, des services d'intervention urgente et certains services aux familles, mais ces services sont souvent utilisés en attendant d'accéder au financement des services cliniques de base qui couvrent des thérapies clés comme l'analyse comportementale appliquée, l'orthophonie et l'ergothérapie. Dans un communiqué, une porte-parole du ministre Parsa, Daya Soni, a affirmé que le gouvernement continue de faire du POSA une priorité, que le budget du programme a été plus que doublé, atteignant 779 millions. Cet investissement permettra de continuer à soutenir l'inscription des enfants et des jeunes aux services cliniques de base, a-t-elle ajouté. Mais selon Alina Cameron, la réalité est tout autre. La plupart des familles attendent plus de 5 ans après leur inscription avant d'avoir accès aux services cliniques de base. En Ontario, l'intervention précoce est pratiquement morte, déplore-t-elle. Pour sa part, la critique néo-démocrate en matière d'autisme, Alexa Gilmore, se questionne aussi sur la destination réelle des fonds. On ignore combien ira au service direct et combien à l'administration, souligne-t-elle. On sait qu'ils embauchent plus de personnel, mais la liste d'attente continue d'exploser. Mme Gilmore note également que même une fois le financement accordé, plusieurs familles peinent à trouver des fournisseurs disponibles. Cet argent, c'est une goutte d'eau qui ne suffit pas à combler l'écart, conclut-elle. C'était L'Ontario augmente le budget pour l'autisme, mais les défenseurs restent sur leur faim. Un texte de la presse canadienne paru le 17 mai 2025 sur radiocanada.ca.
Accessibilité au service des postes, tout un enjeu. Un texte de Sarah Arsenault, paru le 20 mai 2025 sur radiocanada.ca. À l'aube d'une grève dans la foulée du conflit de travail chez Postes Canada, des organismes qui représentent des clientèles vulnérables dénoncent des solutions jugées discriminatoires. En effet, Postes Canada pourrait cesser la livraison du courrier à domicile après que l'utilisation des casiers postaux a été proposée comme mesure de règlement. Ce serait tout un enjeu pour les personnes à mobilité réduite qui risquent d'être les premières touchées, selon la présidente de l'Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook, Annie Cloutier. Si la personne handicapée se retrouve avec une case qui est en haut de la série de boîtes postales, elle n'est pas capable d'y avoir accès, et encore moins d'avoir accès jusqu'au fond de la boîte postale, lance-t-elle. Elle mentionne également que les conditions météorologiques et l'absence de montée de trottoir peuvent compliquer davantage leur accès. Citation : Dès qu'il y a de la pluie, de la neige, c'est impossible pour eux ou presque de se rendre aux boîtes postales. C'est absolument un service essentiel pour la clientèle à mobilité réduite. Fin de citation. Annie Cloutier, présidente de l'Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook. Plusieurs personnes handicapées reçoivent du matériel de soins à domicile, précise-t-elle. D'autres compagnies offrent généralement le service de livraison à la porte, mais il est possible que des colis soient livrés dans un point de service, ce qui peut devenir problématique, selon Mme Cloutier, qui réitère l'importance de conserver un service accessible. Et même si l'utilisation d'Internet est de plus en plus présente, Mme Cloutier croit que le courrier reste important puisque certaines personnes sont moins habilitées avec Internet et il y a quand même certaines personnes qui n'y ont pas accès non plus. Les 55 000 employés de Poste Canada pourraient déclencher une grève dès vendredi, à moins d'une entente avec l'employeur. Et chez les aînés, le président de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, Pierre Lynch, abonde dans le même sens. Des aînés commencent à penser qu'ils sont comme pris en otage. Ça crée de l'inquiétude, soutient-il. Plusieurs se demandent s'ils vont recevoir leurs prestations gouvernementales à la fin du mois ou encore s'ils devront entreprendre des démarches supplémentaires afin de savoir où récupérer leur argent. Cela touche spécialement ceux qui n'utilisent pas les services financiers en ligne, par exemple. Plusieurs ne feront jamais le saut vers le numérique, estime M. Lynch. Les personnes les plus défavorisées en termes de littératie informatique sont celles qui sont les plus touchées. Il ajoute que pour beaucoup d'aînés vivant seuls, le fait d'aller chercher son courrier était parfois le seul lien avec l'extérieur, donc la présence du facteur à la porte peut constituer une dose de contact humain au quotidien. C'était « Accessibilité au service des postes, tout un enjeu », un texte de Sarah Arsenault, paru le 20 mai 2025 sur radiocanada.ca.
Deux générations se donnent la réplique. Aînés et ados sur scène, un texte de Diane Lapointe, paru le 1er avril 2025 dans La Relève. Quand des adolescents de 12 et 13 ans et des aînés se partagent la scène, cela donne une production théâtrale riche en échanges et en découvertes. Famille sous influence, présentée par la troupe La Fadoquerie, et bien plus qu'une simple pièce de théâtre. C'est une rencontre entre deux générations, une fusion entre énergie et effervescence, vécu et bienveillance. Et surtout, un projet qui incarne pleinement le nom de la troupe. Cette année, notre nom prend tout son sens, souligne Philippe Néron, metteur en scène de la pièce et directeur des ateliers Néron. Fadoquerie, c'est Fadoc, ado et rire, tout est là. L'idée de cette production est née de son expérience avec la Fadoquerie, troupe composée de membres de la Fadoque de Boucherville et de son travail avec de jeunes comédiens. J'ai toujours travaillé avec des jeunes. L'an dernier, c'était ma première expérience avec des aînés et je me suis dit qu'il fallait croiser ces mondes-là, relate l'artiste. Il a décidé de fusionner la troupe de théâtre de l'école de Mortagne avec la Fadoquerie, créant ainsi un projet inédit. Une pièce où les rôles s'inversent. Dans Famille sous influence, les générations se mélangent autant sur scène qu'en coulisses, explique Rose Languedoc, qui interprète le rôle de Marguerite. La jeune comédienne résume ainsi l'intrigue. C'est une famille plus ou moins unis, qui organisent une cérémonie pour souligner le départ de ma tante Rose en résidence pour personnes âgées et pendant laquelle les rôles s'inversent. Les enfants deviennent des personnes âgées et vice-versa. Cette idée originale est une création de Philippe Néron, élaborée en étroite collaboration avec les comédiens. On a travaillé en atelier de création et, à partir de leurs idées, on a construit un récit qui leur ressemble, mentionne l'auteur. Une synergie unique entre générations. Dès les premières rencontres, la magie a opéré entre jeunes et moins jeunes. On a fait des ateliers où chaque ado était jumelé avec une personne de la FADOC, et tout de suite, la chimie s'est installée. Et depuis, ça travaille main dans la main, raconte M. Néron. Les jeunes apportent une dose de dynamisme et les personnes âgées, une zone de structure, ajoute-t-il. Gisèle Guévin, comédienne d'expérience, a été impressionnée par l'énergie des jeunes. Sur scène, on est tous égaux. Qu'on ait 12 ou 90 ans, c'est le personnage qui passe avant tout, affirme Jean Gauthier. Pour les adolescents, cette aventure a été révélatrice. Ilia Poudrier admet avoir été surprise. Je pensais que les adultes seraient plus sérieux, mais en fait, ils gardent un vrai cœur d'enfant. Même constat pour Vincent Tétrault. J'ai appris que le théâtre n'a pas d'âge. Et que dire de l'influence des jeunes sur les plus âgés? Jean Gauthier, retraité, voit ce projet comme l'accomplissement d'un rêve. J'ai toujours voulu faire du théâtre, et maintenant que je suis libre, c'est une occasion en or. Le faire avec des jeunes, c'est encore plus plaisant. On a l'impression, quand on jase avec eux, les aînés, de parler vraiment à des jeunes de notre âge. Ce n'est pas juste leur rôle, mais leur personnalité que l'on apprend à découvrir, en plus de leur talent. Ils nous apprennent aussi beaucoup au niveau des techniques théâtrales, témoigne Maëva Bissonnette-Quintal. À ne pas manquer. La troupe, composée de 16 comédiens, pratique ensemble tous les mercredis depuis le mois d'octobre. Cette expérience unique dépasse le cadre du théâtre. On espère que la ville de Boucherville nous soutiendra et qu'on pourra jouer ailleurs, notamment dans des résidences pour aînés, confie Philippe Néron. Famille sous influence sera présentée les 8 et 10 mai à l'auditorium de l'école de Mortagne. Les billets au coût de 15 $ sont disponibles sur monvirtuel.com et à la FADOC de Boucherville. C'était Deux générations se donnent la réplique, aînés et ados sur scène, un texte de Diane Lapointe, paru le 1er avril 2025 dans La Relève.